on disait que toutes les personnalités, même des personnalités dans des pays plus hostiles aux États-Unis, sont passées en onde à Larry King, fin du 20e siècle, début du 21e siècle. Et il a reçu beaucoup de sportifs. Et je voudrais ouvrir une porte en disant qu'un très, très grand athlète, pour tout ce qu'il représente, est mort hier, Hank Aaron, qui a été le roi des coups de circuit avant Barry Bonds. C'est lui qui, en avril 1974, avait battu le record de Babe Ruth avec un 715e circuit. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il avait eu des menaces de mort. Il y avait eu des difficultés énormes. Il y a des gens qui ne voulaient pas que Hank Aaron, un Afro-Américain, batte le record de Babe Ruth.
Oui, écoute, il disait, puis j'ai écouté hier Philippe Quentin sur nos zones en parler, il disait qu'à quelque point, il avait dû s'enfermer. Il avait dû cacher ses enfants en raison des menaces de mort parce que les gens, à l'époque, ne voulaient pas que Hank Aaron, un Afro-Américain, dépasse un blanc comme Babe Ruth au chapitre des coups de circuit. Et il avait fait une entrevue, selon toujours Philippe Quentin, je pense alors qu'il avait 60 ans, puis il avait dit « Cette journée-là restera gravée à tout jamais dans ma vie parce qu'à cette journée-là, on a pris un morceau de mon cœur. » Alors qu'il avait été si détesté, alors qu'il faisait de si grandes choses sur le terrain. Bref, selon plusieurs encore, Paul, parce que Barry Bonds, il y a des doutes sur ses performances, selon plusieurs encore aujourd'hui, Hank Aaron est et sera toujours le meilleur frappeur de l'histoire du baseball.
Oui, et quand on regarde son parcours, plus de 25 ans, il a fait 25 matchs d'étoiles, je crois. En tout cas, c'est un parcours incroyable. Et on disait de Larry King... il n'y avait pas de limite à ses invités. Le monde du sport, je retiens quelques entrevues extraordinaires avec Mohamed Ali. Mm-hmm. À l'époque où Mohamed avait commencé à avoir des symptômes, vous savez, là, des symptômes de tremblement suite à sa carrière. Quelle entrevue remarquable.
Ah non, je suis certain que si vous faites une recherche sur YouTube, vous allez trouver des bijoux en revoyant des entrevues de Larry King.
O.J. Simpson était passé... Non, mais écoute, O.J. était passé avant l'histoire, bien sûr, d'O.J. Simpson... La sinistre histoire. Mais après ça, il avait rappelé Larry King plusieurs années plus tard, après son acquittement en cour criminelle.
Ah, c'est incroyable. En fait, toute une carrière. Puis moi, ce que je retiens, mon père m'avait dit ça, Paul. Mon père m'avait dit, t'as combien d'oreilles? J'avais dit deux. Il dit, t'as combien de bouches? J'avais dit une. Il dit, écoute deux fois plus que tu parles. Quand on écoutait tantôt M. Châteauvert qui parlait de Larry King, qui écoutait dans les entrevues, trop peu dans notre business, Paul, font l'inverse. Ils veulent suivre leur plan de match, interrompent leur invité, puis écoutent pas. Mais Larry King l'avait dit, puis mon sage-père l'avait dit aussi.
Une des grandes qualités de Larry King, je pense que Thérèse va être d'accord, Richard Châteauvert à New York va être d'accord aussi, homme de peu de mots. Il posait sa question en quelques mots seulement.
Oui, ça aussi. Effectivement,
et il avait
une
voix,
qualité extraordinaire.
Oui, il avait une voix remarquable. Et comme tu l'as dit, il écoutait, mais il disait, pardon,
tu parlais de...
What's going on with this thing?
Ouais.
Et c'est tout.
Des questions.
Qu'est-ce qui arrive avec ça?
Précise, direct au but. Et O.J. Simpson, tu parlais d'O.J. Simpson. O.J. Simpson avait appelé Larry King au lendemain de son acquittement.
Machine.
Il avait appelé Larry King à CNN et Larry King l'avait reçu dans son émission. En fait, il l'avait reçu par téléphone alors que ses deux avocats étaient assis avec Larry King.
Incroyable.
Il y a une autre entrevue que Larry King a fait, donc qui est mémorable, celle avec Marlon Brando. Et c'est drôle parce que Larry King disait une chose. Il était venu à Montréal. Il était venu à Montréal d'ailleurs rencontrer des journalistes puis faire évidemment une conférence. Et il avait dit, vous savez que vous êtes vieux quand les aéroports et les rues portent les noms de gens que vous avez bien connus.
Ouais.
Et il n'y a pas beaucoup d'animateurs qui peuvent se vanter d'avoir interviewé des gens importants du siècle dernier. Je pense à Malcolm X, je pense à Frank Sinatra, je pense à plein de gens que lui a rencontrés.
Alors, on est en train d'intégrer la chronique de Thérèse avec celle
des
sports.
C'est
parce que... Non, mais c'est correct, Martin, parce qu'on l'a dit, Larry King, c'était un amateur de sport aussi. Et... là, le Canadien joue contre les Canucks pour une troisième fois, mais avec les incidents survenus en fin de match impliquant Tyler Myers, qui n'a pas été suspendu et qui coûte très cher aux Canadiens parce qu'il a causé une commotion cérébrale à Yoel Armia, qui avait si bien joué dans le dernier match.
Absolument, 4 points.
Donc, le Canadien va être privé d'Armia ce soir et pour les prochains matchs.
Absolument. Armia, qui j'avais défendu toute la semaine bec et ongles parce que les gens avaient tombé à bras raccourcis. T'sais, on cherche toujours un mouton noir, même dans le succès. Le Canadien est invaincu en temps réglementaire. Puis les gens trouvaient des noises à Armia. Je l'avais défendu toute la semaine. Il arrive, gros match contre les Canucks de Vancouver. Paul, 4 points. Il y a cette mise en échec. Tu sais pourquoi on ne l'a pas suspendu Tyler Myers?
Parce qu'on trouve qu'Armia était trop gros.
Non, on dit que l'impact principal n'a pas été à la tête de Yoel Armia.
Non, parce qu'Armia, il a un gros gabarit, puis on a l'impression que ça avait été un plus petit joueur. Mettons s'il avait fait ça à Paul Byron.
Ouais.
Peut-être qu'il aurait été suspendu.
Ouais, en tout cas, on s'est défendu du côté de la Ligue nationale de hockey en disant le règlement dit contact à la tête, qu'on ne peut pas suspendre Myers. Le contact n'était pas là.
Est-ce que Byron va jouer ce soir?
Il est un cas douteux. Il n'était pas à l'entraînement hier non plus. Donc, Frolic et Perry pourraient faire leur entrée ce soir. Donc, on pourra voir un peu plus tard la composition des trios. On va en parler également avec Martin McGuire plus tard à l'émission. Donc, Canadien contre les Canucks, c'est à 19h ce soir avec Martin et Danny.
Et Carey Price va être de retour devant le filet.
Absolument. Ouais. Je pensais que tu voulais me parler de Pierre-Luc Dubois.
Eh oui, c'est la grosse humeur, là.
Je continue à suivre ça, Paul. Et on confirme, là, on avait dit 3 équipes. On confirme que les Flames de Calgary sont la 4e équipe ce matin à être dans le derby Pierre-Luc Dubois. On dit que depuis jeudi, les conversations se sont intensifiées parce qu'on est vraiment rendu à la croisée des chemins. Ça doit se terminer dans le cas de Pierre-Luc Dubois.
Merci, Martin. Ben, on enchaîne tout de suite avec le reste de votre chronique, Thérèse. C'est un moment, oui, go Thérèse. Un moment marquant dans l'histoire de la télévision. Dans l'histoire de la télévision américaine, il y a eu des animateurs célèbres. On pense à Johnny Carson.
Ouais.
Plus tard, David Letterman. Il y a eu Jack Parr dans les années 50. Ed Sullivan, hein, le dimanche soir.
Ouais.
Mais là, Larry King, c'est un monument qui nous a quittés plus tôt ce matin.
Et vous vous rappelez, Paul, certainement qu'il y a plein de gens qui ont fait des confidences à Larry King au fil des années. Vous rappelez-vous l'acteur britannique Hugh Grant qui avait été infidèle à sa petite amie dans une automobile soir?
Sa petite amie étant Liz Hurley.
Voilà, Liz Hurley, bien évidemment, il était allé, Hugh Grant, à CNN. Il s'était confié. Ça avait été une entrevue qui avait été très, très regardée parce qu'on se demandait comment Larry King avait posé une question.
Michael Jackson, entrevue légendaire avec Larry King.
Oui, il avait interviewé Patty Hearst qui avait été kidnappée, tu te rappelles, ça avait été une entrevue qui avait été très médiatisée. Il y avait, à un moment donné, il y avait eu une sorte de réunion des Beatles, toujours vivants, 2000, quelque chose, avec Larry
2007.
King. Oui, c'est 2007, merci. Et il parlait pendant l'entrevue, puis... Il s'était adressé à Ringo, puis il l'avait appelé George. Ça avait créé toute une histoire. On en parle encore quelques années après. Il y a personne qui... Il y a le critique de télévision du Los Angeles Times, Robert Lloyd, qui avait écrit sur lui quand il avait commencé sa carrière. Il avait dit, il n'y a personne qui fait ce travail-là mieux que lui, ce travail d'intervieweur. Et il n'y a personne qui le fait avec plus d'enthousiasme et d'écoute. Et ça avait été une des nombreuses critiques qu'il avait eues. Il y avait eu un pic d'audience en 92 quand Ross Perot avait annoncé qu'il allait se présenter à la présidence en tant qu'indépendant. Puis, à un moment donné, il y avait eu un débat aussi avec Ross Perot et Al Gore. Et ça avait été un autre, vraiment un pic d'audience, là. Et il y a une chose que Larry King avait toujours dit, il ne supportait pas le journalisme à la première personne. Le jeu et tout ça, il disait toujours se tourner vers les gens que tu interviews.
Il avait dit que le plus grand combat qu'il avait mené dans sa vie, c'était contre la cigarette. Il y a eu des problèmes cardiaques, d'ailleurs. Il y a eu des pontages.
Ouais.
Mais Larry King n'hésitait pas à dire que c'était l'histoire de sa vie, sa lutte contre le tabac.
Le tabac, qui avait été intense.
Oui, c'est facile de dire aux gens, arrêtez de fumer, mais il dit, c'est une autre affaire que de le réaliser.